Dr Bernard Friot, professeur émérite à l'Université Paris 10, sociologue, économiste, auteur entre autres d'Émanciper le travail et c'est paru aux éditions La Dispute, est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « Revenu universel, revenu de base ou salaire à vie ?» Fondu l'un des invités de l'UMA Café de Nantes.
L'un des problèmes, à mon sens, et ça revient à ce qu'on disait auparavant, c'est que il me semble que Bernard Friot évacue assez rapidement la question du marché. Parce que qu'est-ce que vous dira un libéral par rapport à ça? Un libéral vous dira, en fait, celui qui a le pouvoir de reconnaître une activité sociale comme étant du travail dans la société contemporaine, c'est pas le patron, c'est le consommateur. C'est le consommateur qui, s'il achète le produit, dit « Ok, je suis d'accord pour reconnaître que le travail qui a produit ce truc-là, c'est vraiment du travail », et qui, en revanche, s'il n'achète pas le produit, dit « Non, ça sert à rien, il faut qu'on arrête, c'est pas vraiment du travail, c'est gaspillé, etc. » Et je pense que l'articulation entre les deux, c'est ça le problème de Marx. C'est-à-dire comment est-ce que le capitalisme exploite la figure du consommateur, se réfugie derrière la figure du consommateur pour dire en gros, c'est pas nous qui avons le pouvoir dans la société, c'est le consommateur. C'est lui qui décide d'acheter ou de ne pas acheter, c'est lui qui valide ou non ce qui est du travail et ce qui ne l'est pas. Et ça, il me semble que Bernard Friot évacue un petit peu ce masque, disons, consumériste du capital. L'autre problème étant sur la question de l'organisation de la société, mais c'est lié, puisque du coup, Bernard Friot considère que le seul marché avec lequel il faut vraiment rompre, c'est le marché du travail, et que le reste du marché peut fonctionner. Alors du coup, lui est souvent posé la question de savoir comment est-ce que, dans ce cadre-là, on incite les travailleurs à travailler. S'il n'y a plus l'aiguillon, disons, du marché du travail. Mais il me semble que plus généralement, la question qui se pose dans ces cas-là, c'est celle de l'organisation de la production. Ce n'est pas tant de forcer les gens à travailler, c'est de faire en sorte que les gens fassent en sorte que les besoins sociaux soient remplis. Et si on supprime le marché du travail, il me semble qu'il faut inventer des choses. Alors je ne dis pas que Bernard Friot n'en est pas conscient, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il a, me semble-t-il, moins travaillé.
Oui, très bien, très bien, très bien. Merci à Guillaume Fondu, que je vais retrouver d'ailleurs bientôt. Alors, plusieurs choses dans ce qu'il dit. D'une part, l'argument capitaliste disant « mais ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va être produit, c'est les consommateurs », c'est quand même complètement bidon. Moi, je voudrais bien n'avoir que du train, mais je suis obligé de passer des fois par de la route. On ne me laisse absolument pas le choix. Ce sont bien les capitalistes qui décident de ce qui va être produit. Ensuite, à la marge, on est autorisé à préférer un smartphone bleu plutôt que noir. Mais enfin, tout ça, c'est quand même extrêmement médiocre comme pouvoir. Alors maintenant, s'agissant du marché des biens et services, dès lors qu'on l'aura débarrassé justement de la logique capitaliste, la logique capitaliste, ce n'est pas le marché. La logique capitaliste, c'est des marchandises qui mettent en valeur du capital, des marchandises qui ne sont produites que parce qu'elles mettent en valeur du capital. Vous avez des tas d'innovations technologiques, par exemple, qui ne se font pas parce que ce n'est pas jugé rentable pour le capital, etc., etc. À partir du moment où vous avez des tas de produits qui sont produits, je ne sais pas, prenez le médiateur, mais prenez tous les objets obsolescence programmée, prenez les jouets qui se cassent dans les 5 minutes, en fait, etc. Tout ce qui est produit alors que c'est de la merde, prenez l'agro-business et tout, et les baguettes avec 150 additifs plus ou moins chimiques qui nous empoisonnent à petit feu, enfin, etc., etc. La détermination de la production par les capitalistes, elle est totale. Il faut arrêter de dire que c'est le consommateur qui décide. En revanche, le consommateur pourrait être beaucoup plus décideur, effectivement, à partir du moment où la production de marchandises, c'est-à-dire de biens à prix, qui doit continuer, le marché doit absolument continuer, comme allocateur des richesses, la production de marchandises va être débarrassée de la logique capitaliste qui dit « je produis pour mettre en valeur du capital ». C'est ça le critère de la décision de production. on produit tout ce qui met en valeur du capital. On ne produit pas ce qui ne met pas en valeur de capital. Bon, lorsque on aura débarrassé la production de marchandises de cette logique-là, que nous serons décideurs, nous tiendrons compte de l'utilité sociale de ce que nous produisons, et donc nous allons mettre sur le marché des marchandises dont l'utilité sociale, on peut l'espérer en tout cas, sera plus grande que les marchandises que met le capital sur le marché. Et il y aura bien une validation sociale par le marché des biens que nous produirons. Moi, je crois beaucoup à la validation sociale par le marché des produits du travail. Mais une chose... Alors attendez, en supprimant les biens marchands dans un certain nombre de domaines pour lesquels il faut au contraire mettre en place de la gratuité, les transports de proximité, les premières consommations d'eau et d'énergie, revenir vraiment à la gratuité totale en matière de santé et d'école, d'éducation, instaurer une part de gratuité dans le logement, enfin il y a vraiment des... Il faut élargir la sphère de la gratuité, hein, mais... Une fois qu'on élargit la sphère de la gratuité, il reste une vaste sphère marchande pour laquelle il faut bien distinguer la validation marchande des produits du travail de la validation sociale du travailleur. Le travailleur ne doit pas tirer ses ressources du chiffre d'affaires de sa propre entreprise s'il est indépendant ou de l'entreprise dont il est salarié. Il y a beaucoup trop d'aléas, beaucoup trop d'injustices, beaucoup trop de... Alors, il y a des marchés en expansion, il y a des marchés en régression. Alors, il faut que dans les marchés en régression, les gens crèvent. Enfin, c'est... Alors qu'ils peuvent être extrêmement utiles. Ou des marchés qui ne trouvent pas leur assiette économique alors qu'ils sont bien plus utiles. Prenez du marché du bio, bien plus utile que le marché de l'agrobusiness. Enfin, non. La validation sociale de mon travail... doit bien être distingué de la validation sociale du produit de mon travail. La validation sociale du produit de mon travail peut être marchande, c'est même souhaitable qu'elle le soit dans de nombreux cas. En revanche, la validation sociale de mon travail, hein, mon statut de travailleur, mon niveau de salaire doit être séparé de l'efficience marchande du produit de mon travail. C'est comme ça qu'on peut faire de l'innovation, c'est comme ça qu'on peut maintenir des activités peu supportées par le marché, mais absolument décisives. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis salarié d'une entreprise. Bien sûr que cette entreprise, si elle veut rester, elle doit être performante sur le marché, sinon elle va disparaître. Donc, il y a bien, au niveau de l'entreprise, comme actif, comme lieu de production de marchandises, une obligation d'efficience. Mais moi, en tant que travailleur dans cette entreprise, ça ne doit pas être la valeur ajoutée de l'entreprise qui doit être la base de mon salaire. La base de mon salaire, ça doit être la socialisation des valeurs ajoutées des entreprises, entre les branches qui marchent, celles qui ne marchent pas, en fait, etc., etc., les branches neuves, les branches anciennes. C'est la socialisation des valeurs ajoutées dans une cotisation salaire et cette cotisation va permettre de me payer un salaire à ma qualification et non pas un salaire dépendant du succès du produit que je fabrique. C'est cette dissociation qu'il faut faire, qui n'est pas totale. Évidemment que si la boîte dans laquelle je travaille génère très peu de cotisations, pendant longtemps, parce que sa valeur ajoutée est faible, alors qu'elle a un effectif important et qu'elle représente pour la caisse de salaire une grosse dépense. Il y a un moment où il va y avoir un conflit entre la caisse de salaire et la boîte. Mais ça va se gérer. Le conflit, c'est le propre de la démocratie en économie. Et bien sûr qu'il y aura des conflits. Comme il y aura des conflits entre les entreprises et les caisses d'investissement, les jurys de qualification, etc. Mais ça, c'est... Au contraire, il faut s'en réjouir.
Et comment et qui détermine ou définit une utilité sociale ?
Alors là, l'utilité sociale, c'est à la fois donc le marché, enfin, c'est les consommateurs, mais qui du coup ont un pouvoir parce qu'ils sont d'abord des producteurs, ces consommateurs. Dans le capitalisme, les consommateurs, c'est... Vous prenez le métro, vous avez des tas de pubs pour consommer. avec maintenant même des pubs dégueulasses, hein, c'est bon de commander, par exemple, qui arrive. C'est bon de commander. Commander quoi ? Commander un repas à domicile par un étudiant qui vient sur son Deliveroo et de votre domestique. Hein. C'est bon de commander. Commander de la domesticité. Vous aviez une autre pub récente, qui m'indigne, moi, tout ça, hein, qui dit « Oh, n'hésitez pas à faire du désordre chez vous, on est là pour ça ». Pour des femmes de ménage qui viennent. Enfin, vous voyez, cette espèce d'exaltation de la capacité qu'on a d'exploiter plus faible que soi. C'est odieux. Hein. Mais en revanche, commander au travail, ça, moi, j'ai jamais eu de publicité là-dessus. Hein, parce qu'on ne commande jamais au travail. Donc, à partir du moment, en revanche, où c'est nous qui produisons, ben, nous allons produire des marchandises qui auront une valeur d'usage. Et le marché va attester que notre choix est correct. Il y aura à la fois notre propre décision comme travailleur, et puis il y aura une attestation par le marché de la validité de nos choix. Je crois que ça, c'est très bon. Donc, ça ne sera pas un Gosplan hein, qui va décider. Ce ne sera pas, je ne sais pas quoi, une bureaucratie qui va m'affecter 300 grammes de viande par semaine ou 6 pains au chocolat. Non, c'est une allocation marchande, mais à partir de producteurs qui sont eux-mêmes des décideurs et qui vont donc avoir le souci de la valeur d'usage de ce qui est produit. Alors, à côté de ça, tout ne relève pas d'une allocation marchande. L'éducation, la santé, il y a des tas de... J'en ai évoqué un certain nombre. Qui décide ? C'est la décision collective. Il y a des lieux où on délibère de ce que l'on attend de la santé, de l'éducation en matière de production de santé ou d'éducation. Et puis, les caisses d'investissement, s'agissant de qu'est-ce qu'on investit, où on investit, c'est quoi, quel est un investissement utile, les caisses d'investissement qui auront des ressorts territoriaux, de branches, etc., ces caisses d'investissement, elles vont, elles aussi, gérées par les travailleurs eux-mêmes, des travailleurs qui vont être élus, qui auront des comptes à rendre, enfin, etc. Ces caisses d'investissement, elles vont, elles aussi, estimer ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas. Enfin. Et puis, il y aura des instances politiques. Là, je n'ai parlé que des instances économiques, mais il y aura aussi des instances politiques. Des instances politiques qui vont dire, je ne sais pas, on arrête le nucléaire. Parce qu'on ne peut pas attendre d'instances économiques qu'elles disent, on arrête le nucléaire. Ça, jamais... Les travailleurs nucléaires ne seront acquéris, c'est clair. Mais en revanche, des instances politiques interviendront aussi, bien sûr. Comment est-ce qu'on va allouer la main-d'œuvre dès lors qu'il n'y a plus de marché du travail ? Le salaire à vie, ce n'est pas une société sans obligation ni sanction. J'ai un salaire à vie, je veux monter ma boîte. Alors, j'ai beaucoup plus de facilité qu'aujourd'hui, puisque je suis subventionné, je n'ai pas emprunté. J'ai un salaire à vie qui fait que je suis sûr de mon coût. Je ne vais pas là attendre la langue pendante, ma première valeur ajoutée positive qui peut attendre des années. Bon, ça va être plus facile. Ce qui fait d'ailleurs que le travail va exploser. Nous allons beaucoup plus avoir l'occasion de travailler. Mais ça ne veut pas dire que si je fais de mauvaises pizzas, je vais pouvoir continuer à le faire. Mais non, je devrais faire mes boutiques, parce que je ne pourrais pas payer les fournisseurs. Mon salaire à vie, ça ne me garantit pas contre la nécessité de faire mes boutiques si ce que je fais n'a pas de validation marchande. Ce que ça évite, c'est en revanche la double peine. Un échec professionnel, c'est toujours difficile à supporter. Mais si en plus je dois rembourser, j'ai même pas de chômage parce que je suis indépendant, etc., comment voulez-vous que je rebondisse ? Le salaire à vie, c'est ce qui me permet de rebondir après un échec professionnel. Idem dans une entreprise. Donc je ne monte pas ma boîte là, je rentre dans une entreprise. Je rentre dans l'entreprise, j'ai un contrat de travail. Ce contrat de travail, alors il ne donne pas mon salaire puisque mon salaire est un attribut de ma personne, mais il va donner des horaires, des tâches à faire, enfin, etc., etc. Si je ne fais pas l'affaire, je serai sanctionné. Mais cette sanction ne va pas m'atteindre dans mon statut de travailleur. Je garde ma qualification, j'ai un salaire à vie, c'est-à-dire que je n'entre pas dans une espèce de nuit sociale dont j'aurai beaucoup de difficultés à sortir.
Bernard Friot, auteur d'Émanciper le travail, est avec la complicité de l'Huma Café de Nantes, l'invité du magazine.
Je garde ma qualification, j'ai un salaire à vie, c'est-à-dire que je n'entre pas dans une espèce de nuit sociale dont j'aurai beaucoup de difficultés à sortir. Or, dans une économie qui doit permettre des trajectoires souples, etc., des choix de vie avec des temps sociaux différents, quand on a des petits gamins, il vaudrait quand même mieux qu'on soit un peu plus avec eux, ou des ados, les parents sont insuffisamment présents auprès d'eux, ou on veut changer complètement d'activité, parce que, je sais pas, on a envie de faire autre chose, tout ça va être beaucoup plus possible, mais... avec des contraintes à... Comme dans tout travail, enfin, il y a des contraintes à observer. Si des gens, par exemple, n'occupent pas des postes qui sont pourtant socialement nécessaires, la solution, elle est assez facile à trouver. C'est que ceux qui accepteront de les occuper monteront beaucoup plus vite en qualification. Il y aura bien un encouragement à occuper des postes de travail qui, spontanément, n'attireraient pas de candidats. Des tâches qui ne sont pas valorisées, ou alors des tâches valorisées, mais qui sont attentatoires à la santé, comme le travail de nuit, par exemple. Le travail de nuit est absolument nécessaire en matière de santé, en matière d'industrie de process qui ne peuvent pas s'arrêter, en fait, etc., etc. Mais il ne faut pas le pratiquer trop longtemps. Donc, ma foi, on encouragera par des montées plus rapides en qualification, mais sans que des gens se retrouvent à faire du travail de nuit trop longtemps, parce que c'est quand même très nuisible pour la santé, on encouragera la tenue de poste nécessaire, mais qui n'aurait pas de volontaire spontané, par une montée plus rapide en qualification.
Ça se traduira aussi en termes d'heures de travail hebdomadaires ?
Oui, on peut aussi jouer là-dessus. Hein. On peut jouer sur, pour des métiers qui auraient peu d'attrait spontané, jouer sur le fait que le temps contraint soit beaucoup plus court. Et que du coup, on accepte d'être dans cette contrainte-là, mais en sachant qu'il nous reste beaucoup de temps pour faire autre chose dans la semaine. Oui, bien sûr qu'on peut jouer sur la durée, évidemment. Il y a le site de Réseau Salaria, réseau-salaria.info. Il y a des bouquins aussi utiles. Il y a le bouquin de Christine Jacques, Enjeux de la cotisation sociale. Il y a le bouquin de Claude Didry, L'institution du travail. Il y a mes bouquins à moi, dont le dernier, Émanciper le travail. Alors le Didry, le mien, c'est à la dispute. Puis vous avez le Christine Jacques, c'est au croquant. Voilà quelques ouvrages utiles.
Merci à Bernard Friot, l'initiateur de Réseau Salaria, et merci à Guillaume Fondu pour leur libre participation à ce programme réalisé avec la complicité de l'Huma Café de Nantes. La prochaine invitée de l'Huma Café de Nantes sera Ariel Denis, responsable du département armes nucléaires du Bureau international de la paix. L'auteur de « Mondialiser la paix » paru aux éditions La Dispute interviendra sur le thème « Guerre et paix, brisons un tabou, l'arme nucléaire en question » le vendredi 19 mai à 18h au lieu unique à Nantes.